je lance AZERTY.
Internet ? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire.
C'est comme un énorme Minitel.
Internet !
Internet, c'est le voyage.
Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans AZERTY, votre nouveau rendez-vous bimensuel dédié aux thématiques numériques. Moi, c'est Alex et j'aurai le plaisir d'animer cette émission en compagnie de chroniqueurs tous plus talentueux les uns que les autres. A commencer par Claire qui se charge aujourd'hui de la chronique pop, un somptueux mélange entre notre sujet du jour et la pop culture. Salut Claire! J'ai eu la chance, que dis-je, le privilège de partager plusieurs reportages au cœur de l'actualité rennaise avec lui. Aujourd'hui, il nous proposera une petite chronique de vulgarisation. C'est Florian.
Salut Alex.
AZERTY sera son baptême de radio. C'est un fin connaisseur de la blockchain, il est le crypto-spécialiste de cette émission. Zachary, salut.
Bonsoir.
Maintenant que les présentations sont faites, vous vous demandez certainement de quoi on va parler aujourd'hui. Eh bien, nous nous sommes laissés guider par l'actualité Mark Zuckerbienne, et pour cette première, nous avons choisi de vous parler du fameux métavers, qui nous est vendu comme étant une sorte d'extension, de renouveau de l'Internet actuel. Mais avant de parler de ce fantasme numérique, on va revenir sur quelques actualités. Alors Florian, c'est quoi ton sujet du jour ?
Alors je vais vous parler du dernier ouvrage du journaliste Guillaume Pitron. L'enfer numérique voyage au bout d'un like. 2 ans d'enquête qui nous montre concrètement l'impact qu'a l'ensemble de nos actions numériques sur l'environnement. Alors au risque de vous divulgâcher le livre, les data centers, les mines graphite, tout cela, c'est pas très éco-friendly. Alors bonjour l'empreinte carbone des réseaux énergétiques, des routes, des câbles et des satellites qui sont nécessaires à l'envoi d'un seul like sur Instagram. Je ne suis pas sûr qu'un chèque numérique de 100 euros sera suffisant d'ici quelques années. Non, mais ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que Guillaume Pitron questionne notre rapport à nous, consommateurs, avec nos outils numériques. Et on ne se doute pas que derrière notre smartphone, si beau qui nous ouvre les portes du savoir, il y a les ravages démentiels sur notre écosystème. Nous ne voyons pas le coût matériel du virtuel et il ne nous est pas permis de le voir puisque l'infrastructure et toute l'industrie sont tournées sans répit vers l'exigence d'immédiateté afin de répondre à nos caprices d'internautes et de consommateurs incapables d'attendre une seconde. Alors on va parler de métaverse, de l'avenir d'Internet, mais ce futur, il ne pourra voir le jour que si notre génération devient responsable et surtout consciente de tout ce qu'implique le tout connecté. L'enfer numérique, voyage au bout d'un like de Guillaume Pitron, c'est aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Eh bien, merci Florian pour cette actu. Alors, chers chroniqueurs, j'aimerais vous faire réagir sur ce qu'a dit Florian en vous posant, par exemple, une première question. Est-ce que, déjà, vous vous rendez compte un petit peu de cette empreinte qu'a le numérique ? Et comment, dans vos usages numériques, si vous faisiez des efforts, comment vous les faites ? Zachary ?
Eh bien, c'est une très bonne question, Alex. J'avoue ne pas penser particulièrement à l'empreinte carbone quand j'utilise Internet, notamment. Mais c'est sûr que moi, à travers mon sujet phare qui est la crypto-monnaie, c'est un sujet qui est constamment au cœur de l'actu, avec beaucoup de diffamation dessus. Mais oui, c'est vrai que globalement, non, j'avoue que je n'ai pas trop pensé à ça.
Florian, est-ce que toi, tu fais attention à ce que tu consommes ? Est-ce que tu, je ne sais pas, achètes d'occasion reconditionnée ?
C'est vrai que je fais pas grand chose, mais bon, je fais au moins un truc, je trie mes mails. Je me dis, au moins ça permet un peu de faire diminuer l'empreinte carbone. Mais c'est ça aussi le problème, c'est qu'on n'a pas des outils vraiment pour diminuer en fait notre empreinte carbone. C'est aussi aux entreprises, à nos gouvernants, de faire ce qui est nécessaire justement pour permettre à nous, consommateurs, d'être responsables.
Très bien. Donc ouais, toi, tu dirais que c'est plus à une autorité, qui plus est l'État, de mettre un petit peu des moyens qui nous permettraient de réguler la consommation, peut-être.
C'est ça, c'est pas à nous de le faire.
Ouais, peut-être.
Non, c'est pas notre problème, attends.
Et toi Claire, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, par exemple, moi, à mon taf, on doit obligatoirement utiliser Teams entre tous les salariés pour éviter qu'on s'envoie des mails et que ça pollue. Simplement, ça fait partie de notre démarche sur le RSE.
Ça peut être des choses aussi toutes simples, comme le gouvernement chinois qui maintenant limite en fait les temps d'utilisation de TikTok. Des choses toutes bêtes comme ça qui nous semblent un peu liberticides, Mais en soi, est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser Facebook de 2h du mat à 5h? Enfin,
c'est des questions... quel travail tu fais.
C'est ouais. Ça, c'est des questions qui se posent.
Peut-être un peu extrême. Moi, je pense par exemple à la consommation. Est-ce que vous serez prêt à faire des efforts de consommation drastiques? Moi, j'ai en tête par exemple le Fairphone, qui est un smartphone fait avec des matériaux recyclés, qui est un peu plus écolo dans sa production. Et le truc du Fairphone, c'est que il est écolo, mais il est plus cher. Il est trop cher par rapport à ses capacités, par rapport à ses performances. Est-ce que vous seriez prêt à aller jusque-là, Zachary?
Pas forcément. Enfin, ça dépend vraiment des capacités techniques du téléphone, quoi, du ouais. smartphone. Mais c'est vrai que s'il y a une grosse différence par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le marché classique, ça pourrait faire défaut.
Ouais, ça pourrait faire défaut, forcément. Toi, Florian? Toi, ouais, t'as déjà un vieux téléphone, non?
Oui. Ah oui, moi j'ai un vieux téléphone qui fonctionne très bien, mais c'est vrai qu'en fait, en final, on nous a tellement habitués à de la qualité que c'est devenu difficile de faire moins au niveau technique. Ça dépend en fait de ce qu'ils proposent. S'ils nous proposent un appareil qui nous permette déjà de nous connecter sur Internet, je trouve que c'est suffisant. Mais aujourd'hui, on a toujours envie de la meilleure qualité niveau pixel pour notre appareil photo, du meilleur son pour qu'on s'enregistre, voilà. Donc ce sera compliqué, je pense, de faire accepter au public de diminuer sa consommation et son désir.
Et écoutez, ça fera un super sujet. Peut-être qu'on parlera de ça cette année. En attendant, on va passer aux actualités de Zachary. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, il arrive toujours plus haut et toujours plus loin, le prophète. Celui que certains nomment le prochain étalon monétaire mondial. Il est jaune comme l'or, mais on ne peut le toucher contrairement à celui-ci. Je parle évidemment du Bitcoin. Après avoir dépassé son plus haut prix récemment, atteignant les 67 000 $, une news est passée à la trappe de nos médias nationaux. Walmart, l'enseigne numéro 1 mondial de la grande distribution située aux États-Unis, a décidé d'installer des distributeurs de Bitcoin dans 200 de ses enseignes, avec un objectif fixé à 8 000 distributeurs à travers le pays. L'objectif est de doper l'adoption des crypto-monnaies tout en prenant un billet dessus. En effet, l'achat d'un Bitcoin à ses distributeurs entraîne des frais de transaction de 4% et des frais de change de 7%, un bon moyen pour Walmart de se créer une trésorerie de Bitcoin au passage. Peut-être est-ce un début avant de définitivement pouvoir payer ses courses en Bitcoin ? Plus proche de nous, en France, le groupe Casino a annoncé travailler sur une crypto-monnaie, le LUS, L-U-G-H. Celle-ci sera adossée à l'euro, ce qui signifie qu'un LUS vaudra 1 euro et permettra d'acheter ses courses dans leurs enseignes, mais aussi de remplacer les points de fidélité. Pour rappel, Casino possède Cdiscount, Franprix, Monoprix, Sarenza et d'autres enseignes. Les points de fidélité pourront donc être partagés à travers toutes les enseignes, ce qui peut nous sembler pratique, mais sera surtout en réalité très lucratif au groupe Casino, qui pourra suivre les transactions de ses clients via un seul compte et pour toutes ses enseignes. À choisir, je préfère utiliser le Bitcoin, mais l'Europe n'a pas l'air d'en vouloir, à contrario de nos amis américains.
Merci Zachary pour ton actualité. Alors, je vais me permettre de rebondir dessus en vous posant une question. Est-ce que si vous, demain, il était possible, et je crois Zachary qu'il est déjà possible, tu me diras, de payer avec des Bitcoins comme une carte de crédit Bitcoin? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Toi, Zachary, j'imagine que ça t'intéresserait.
Ben, en fait, l'avantage marketing qu'ont les sociétés de crypto-monnaies, c'est qu'ils vous disent de mettre des crypto-monnaies sur une carte bleue qu'ils possèdent. Et lorsque vous allez payer à la caisse, en fait, le Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie va être automatiquement échangé contre de l'euro et encaissé par la société en question. Et généralement, ce qu'ils offrent aussi, c'est un cashback, c'est-à-dire que vous allez dépenser de l'argent avec cette carte et vous allez récupérer de la crypto-monnaie sur votre compte d'une de ces sociétés. Et donc, en fait, c'est vraiment l'avantage marketing de se dire, OK, on dépense de l'argent, mais en fait, on en gagne, ce qui pose beaucoup de questions aussi niveau régulation via l'État.
Claire, toi, c'est quelque chose que tu pourrais faire, payer en crypto-monnaie, si c'était possible?
Bah, pourquoi pas, en plus, ça devient de plus en plus accessible. Enfin, moi, quand j'étais à Caen, il y a 4 ans déjà, 3 ans, je ne sais plus.
Ça ne rajeunit pas. Hein.
Voilà. Et bah, il y avait déjà des boutiques dédiées uniquement à la crypto-monnaie. Donc, je me suis dit, en fait, finalement, on n'est pas si loin. Enfin, c'est accessible, quoi.
Moi, pourquoi pas, ouais. Ça pourrait être intéressant. Après, il faut voir dans quel cadre ça se fait. Est-ce que ça nous rendrait dépendants à certaines chaînes, certaines filiales? Il faut voir, je pense. Voir un peu comment ça évolue.
À la crypto-monnaie, est-ce que demain, ce sera notre moyen de paiement principal? Zachary, toi, tu y crois ou pas? Alors, la crypto-monnaie remplacera-t-elle l'euro?
La monnaie universelle.
L'euro, en Europe, déjà, ça va être très compliqué. Notamment quand on peut entendre Christine Lagarde qui dit... signe et persiste que le Bitcoin n'est pas une monnaie, alors qu'à côté, une semaine avant, le Salvador l'adopte comme monnaie légale. Donc tout de suite, on se pose des questions, mais on suppose en fait que l'Europe a juste peur de perdre le contrôle. On rappelle que la Banque Centrale Européenne, ceux qui sont au siège de cette banque centrale, c'est eh ben, les banques. Donc ils veulent à tout prix protéger leur magot en fait.
Eh bien, ça aussi, on en parlera sûrement cette année du Bitcoin avec les évolutions à venir. On va passer tout de suite à mon actualité. Et moi, je voulais vous parler de votre ancien président des États-Unis préféré. J'ai nommé Donald Trump. Alors, souvenez-vous, en janvier dernier, le réseau social Twitter a décidé de suspendre définitivement le compte du malheureux. À l'époque, dans un contexte de fin de mandat, l'ancien président des États-Unis s'amusait à provoquer les pulsions les plus dangereuses de ses militants. Après les tristes affrontements du Capitole le 6 janvier dernier, ayant provoqué la mort de 10 personnes quand même, Trump il a continué à provoquer et la plateforme Twitter a jugé bon de le bannir pour incitation à la violence. Plus tard, Facebook et YouTube ont également décidé d'expulser l'ancien locataire de la Maison-Blanche de leur plateforme. Si je me suis permis de recontextualiser un peu, c'est parce qu'il faut que vous sachiez que oui, il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Vous avez vraiment cru que Trump allait se passer d'Internet pour exister ? Bon alors, a priori, vous ne devriez pas le croiser sur vos réseaux préférés, puisque son retour, le milliardaire l'a annoncé le mercredi 20 octobre sur le lancement de sa nouvelle plateforme, Truth Social. L'anglais n'est pas mon fort. Avec cette nouvelle plateforme, il espère, je cite, « résister à la tyrannie des géants des technologies qui ont utilisé leur pouvoir unilatéral pour réduire au silence les voix dissidentes de l'Amérique ». Rien que ça. D'après les quelques captures d'écran dévoilées, Social Truth devrait ressembler à une sorte de Twitter d'extrême droite. En effet, la plateforme fonctionne à partir du code open source de Mastodon, une sorte de Twitter libre. Mais chez Truth, on fait aussi preuve d'innovation. D'après le communiqué de Trump, le service devrait proposer un service de vidéo à la demande et des podcasts non woke. Bref, une plateforme qui nous envoie du rêve et qui devrait voir le jour en 2022 dans les stores d'applications. Est-ce que ça te fait rêver, toi, Florian, cette application d'extrême droite ?
Ah, pas spécialement. Je vais pas te cacher que je me suis pas inscrit sur la liste d'attente pour télécharger l'application, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même de voir tous les moyens qui ont été mobilisés pour créer un réseau social. Est-ce que c'est aussi facile que ça ? Je ne sais pas. En tout cas, Trump peut vraiment nous surprendre et je pense que ça peut devenir un assez gros réseau social si c'est bien mis en place.
Ah oui, tu y crois, toi ?
Et pourquoi pas ?
Vous y croyez, vous ? Claire ?
Quand je vois Zemmour qui passe partout, par exemple, me dit c'est pas impossible.
C'est ça. Avant de faire éjecter de Twitter, Trump, c'était 99 millions d'abonnés sur Twitter.
Oui, mais Twitter, c'est une plateforme où il y a déjà des gens. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, créer une nouvelle plateforme, c'est quand même relativement compliqué. Zachary, qu'est-ce que t'en penses ?
Comme tu dis, il y a eu énormément de moyens déployés pour développer cette application. Donc, à mon avis, s'il a un plan de communication en béton, il peut facilement faire évoluer cette application. Après, est-ce qu'il va vraiment ramener autant de monde qu'il y a sur Twitter ? Très loin de là, à mon avis. Mais c'est sûr que ça peut être une espèce de groupuscule d'extrême droite autour de Trump, quoi.
Après, on rappelle qu'en 2022, ce sera une année électorale pour le Congrès américain. Donc, potentiellement, tous les fidèles de Trump vont se précipiter justement pour pouvoir faire campagne pour leur président préféré.
Ouais, carrément.
Un peu comme le Capitole, quoi.
Ça peut être ça.
Moi, j'avais trouvé ça très surprenant que Trump, alors qu'il s'était réfugié sur le réseau d'extrême droite Parler, commence à créer son propre réseau aussi. Enfin, si on a une division de l'électorat d'extrême droite au sein des divers réseaux que sont Twitter, Parler et bientôt Social Truth, j'y crois pas trop, moi.
Peut-être qu'il a une personnalité qui sera suffisante pour faire quitter justement tous les utilisateurs de Parler et les faire venir sur son réseau social à lui. Faut voir.
On verra ça cette année. On verra ça cette année. Pour l'instant, on va se poser une question. Qu'est-ce que le métavers ? C'est évidemment la question qu'on se pose aujourd'hui, mais avant tout, il est temps d'une pause musicale. Et tout de suite, on écoute Ichon avec le morceau « La vie ».
Y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Y aura du vent, quelle surprise, tu tiens sur le fil, t'es plus sûr de vivre. Faut pas que t'angoisses, n'aie pas peur du vide. Faut que tu fasses le vide pour courir le risque normal. Si le vent te décourage, si le temps devient court, tu verras des vrais tours de magie. Du soleil dans l'orage, la chaleur qui t'étouffe, la maladie s'essouffle. On y est. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent, ce sera trop facile. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent, ce sera trop facile. Ce qu'il faut que tu évites, y'a que toi qui le sais. C'est pas si terrible, ne sois pas si triste. Si tu veux, tu t'en sors. Faut que tu sois plus fort. Après la pluie vient le soleil. Y'a pas d'antidote. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent, ce sera trop facile. Dans la vie, il y a des jours où il pleut et où il fait beau. Mon amour, on va tous mourir demain. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent, ce sera trop facile. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent, ce sera trop facile. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent, ce sera trop facile.
Parce que le wifi va super vite. Y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit.
C'était Ichon, le titre La Vie, qui non, ne parle pas du temps breton, mais bien de la vie. Vous écoutez la première d'Azerty, l'émission numérique de Scilab, et aujourd'hui on vous parle du métavers. Alors avant de commencer à débattre entre nous sur ce sujet, on va se poser une question toute simple. Le métavers, c'est quoi ? Et bah c'est Florian qui va nous donner la réponse.
Ah, les réseaux sociaux, c'est du passé, bande de losers. C'est plus ou moins ce qu'affirme Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Aujourd'hui, le géant de la tech se tourne vers le métaverse, qui est, selon Zuckerberg, le successeur de l'Internet mobile. Alors, très bien, Mark, mais alors, c'est quoi un métaverse ? Un métaverse, ou méta-univers, c'est un espace sur Internet où nous naviguerons sous la forme d'avatars ou de doubles numériques. Le terme de métaverse a été proposé par l'écrivain Neil Stephenson en 1992 dans son ouvrage Snow Crash. Dans le livre, le métaverse n'est pas fictif. Il existe réellement, mais en parallèle de l'univers réel dans lequel nous évoluons. Stephenson définit un métaverse de la façon suivante. C'est un monde virtuel qui repose sur une base technologique, il a une finalité économique, avec une monnaie locale pour effectuer des transactions, faire des bénéfices, et les participants ont un avatar interactif qui peuvent transmettre des émotions. Et il doit représenter une quantité réelle d'individus pour renforcer la similitude avec le monde physique. Alors, un peu comme les Sims, me direz-vous ? Pas tout à fait, mais il y a de l'idée. Imaginons, nous sommes 10 ans dans le futur, vous aviez prévu d'aller prendre un café en terrasse, mais vos amis vous disent que le temps est vraiment maussade. Tout de suite, vous prenez votre téléphone, vous envoyez une invitation à tous vos amis, et ils vous répondent dans la seconde. Alors vraiment, imaginons. Ils vous disent « Ok ». Eh bien avec le métaverse, vous n'aurez qu'à enfiler un casque de réalité virtuelle, et vous retrouverez dans un café numérique, assis à une table en face des avatars de vos amis. Et cela pourrait être appliqué dans les autres aspects de notre vie, comme le travail. Même à distance, votre patron pourra quand même vous engueuler comme si vous étiez en face de lui. Alors j'espère qu'il y aura un bouton mute sur les casques de réalité virtuelle Oculus. Bref, si vous avez vu le film Ready Player One de Steven Spielberg sorti en 2018, vous savez à quoi vous attendre. Alors, vous pouvez me dire pourquoi s'embêter à mettre en place un métaverse alors que les réseaux sociaux fonctionnent si bien. Réponse, parce que c'est cool. Non, plus sérieusement, le marché actuel est assurément plus sûr que dans les années 2000. Le taux d'équipement informatique par foyer et d'accès à Internet au débit est près de 90% dans la population en Europe et aux États-Unis. La pandémie a démocratisé les relations humaines à distance, les jeux basés sur la création d'un monde virtuel tels que Minecraft ou Fortnite touchent aujourd'hui un public plus vieux et plus large. La popularité des crypto-monnaies, on en parlait, banalise l'usage des monnaies virtuelles et les aléas de leur cotation. Enfin, et peut-être surtout, la réalité virtuelle ne nous semble plus aussi inaccessible qu'auparavant. La démocratisation des casques de réalité virtuelle permet de dépasser la principale limite des anciennes expériences, l'immersion. Grâce au métaverse, devenir un acteur immergé et non plus un acteur spectateur, ce sera possible. Les réseaux sociaux ont été une révolution et il est bien possible que les métaverses en soient une nouvelle. Nous voici proches de la réalité Ready Player One, espérons juste qu'elle ne se transformera pas en cauchemar à la Matrix.
Merci Florian pour ta chronique. Je me tourne vers nos autres chroniqueurs pour leur demander, est-ce que ça vous fait rêver, vous, le métaverse ?
Zachary ? Alors moi, oui, complètement. Moi, c'est vraiment... j'ai hâte de voir les possibilités, même si du coup, on en reparlera, il peut y avoir aussi pas mal de déviances. Mais c'est sûr que ça semble comme ça super excitant, quoi.
Toi, ça te chauffe, Claire ?
Vie partagée. Alors, j'ai pas eu encore l'occasion de tester Oculus, mais ça me tente bien, ouais.
Après, comme tu le disais, des métavers, finalement, on en a déjà connu. Peut-être pas des aussi immersifs que nous propose Mark Zuckerberg, mais quelque part, Florian, c'est toi qui as défini. Alors, je te pose la question, est-ce que Animal Crossing, c'est un métavers ?
Ah, techniquement, c'est un métaverse. Effectivement, on a un avatar, on peut évoluer, mais c'est vrai qu'on a toujours en fait la limite de l'immersion, on n'est pas vraiment dans le jeu, même si effectivement on a un avatar avec qui on peut acheter des vêtements, on peut lui faire faire des choses, donc c'est un métaverse quelque part. Mais à mon avis, Mark Zuckerberg a encore une vision qui va au-delà. Vraiment, je suis presque sûr que ce qu'il cherche à faire, c'est à se rapprocher le plus de la vision de Neil Stephenson.
Oui, pourquoi pas. Moi, j'ai une autre théorie sur ce que veut Mark Zuckerberg. Mais ça, je vous en parlerai dans quelques minutes. Pour l'instant, je veux juste savoir.
Devenir maître du monde.
Qu'est-ce que tu ferais en priorité sur le métaverse ? Qu'est-ce qui te donnerait envie tout de suite là, si tu pouvais faire n'importe quoi ? Parce que c'est ça, on imagine un monde sans limite.
Bah moi, ce que j'aimerais justement, c'est nous proposer en fait de visiter un environnement. Qu'on ne connaîtrait pas, qui n'est pas possible normalement, style visiter Mars, par exemple. On pourrait visiter Mars grâce au métaverse. Tout à fait. On pourrait justement faire de l'éducation comme ça, faire de la pédagogie. Ce serait des nouveaux outils qui s'ils sont bien mis en place, bien utilisés, pourraient vraiment être un véritable apport pour l'humanité.
Je me permets de vous interroger sur vos fantasmes aussi. De quoi vous rêveriez-vous dans ce métaverse, Zachary?
Moi, personnellement, en voyant le développement du télétravail avec le Covid, le fameux, moi j'ai hâte de voir du coup les outils qu'ils vont développer, notamment pour ce télétravail à travers les métaverses. Il y a Oculus qui travaille déjà sur des espèces de prototypes qui sont un peu horribles, autant visuellement que voilà, d'utiliser c'est un peu moche, mais à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont être pas mal. De développer.
Ouais. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, le Oculus, qui appartient à Facebook, pour le rappeler, a développé un prototype où, si je ne dis pas bêtise, tu me corriges, on voit des avatars flotter autour d'une table dans une réelle réunion. C'est ça le métavers ?
Ça vend pas du rêve comme ça.
Ça vend pas du rêve.
Mais l'objectif, voilà, c'est que vraiment ça se développe et qu'en fait, oui, l'espace de travail, ça devienne plus vraiment le bureau qui est en face de nous, mais tout, vraiment que ce soit à 360 degrés finalement et que toutes les surfaces autour de nous deviennent des surfaces de travail, quoi.
Et toi, Claire, qu'est-ce qui te ferait rêver dans le métavers ?
J'avoue, je sais pas trop. J'aime bien l'idée du concert, d'assister à des événements comme, par exemple, Snoop Dogg l'a fait. Très récemment, il a fait son clip en métavers, où il a réalisé son clip comme ça, donc il n'était pas présent, mais enfin pas réellement, mais virtuellement. Et ouais, je sais pas, là l'idée de voir, il y avait un truc qui a été déjà fait avec les Pokémon, je sais pas si vous avez suivi aussi.
Ah non.
Ça me dit bien d'assister à un concert, mais je trouve que le métavers c'est cool, mais j'ai peur que ça scinde beaucoup de personnes, qu'on perde beaucoup de personnes comme nos parents. Et ça serait dommage.
Et ben moi je vais me poser la question, est-ce que demain sera bien avec le métavers ?
Donc maintenant, on sait ce que c'est, hein, grâce à toi, Florian. Je me dois de prendre le relais pour briser vos rêves. C'est pour ça que je vous demandais quels étaient vos rêves. Je vais vous ramener les pieds sur terre. Alors, le discours de Mark Zuckerberg et de nombreuses grandes entreprises que je porte dans mon cœur se heurte à des réalités qui font que pour moi, le métavers, eh ben, c'est soit de la poudre aux yeux, soit ce sera pas si fou. Pourquoi ? Eh ben, je vais vous l'expliquer. Alors, premièrement, je me permets, Florian, de revenir sur ce que tu disais quand tu parles de démocratisation d'Internet. Alors, je suis d'accord, la hausse de l'accès à Internet dans la population a changé les usages, permis l'émergence des réseaux sociaux, etc. Mais quand on parle de métavers et d'immersion dans un monde virtuel, même d'ici 10 ans, je reste sceptique sur la démocratisation et la qualité du matériel. Alors, on va faire une petite, on va faire un petit saut dans le présent, savoir ce qu'on a aujourd'hui. Si on parle du casque de réalité virtuelle, c'est encore aujourd'hui un achat de niche. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui peuvent s'en acheter un. Bref, l'AVR, c'est pour l'instant soit un loisir de passionné prêt à mettre le prix, soit un loisir d'extérieur pour le grand public. Il y a encore pas mal de boulot juste pour démocratiser ces solutions d'immersion qui sont juste visuelles et auditives. Et quand bien même on arrive à se procurer un casque VR, l'immersion des autres sens reste peu intéressante. Pour ce qui est du toucher, aujourd'hui, même en cherchant des vestes et des pantalons haptiques, j'ai pas été convaincu. Aujourd'hui, on se limite surtout à faire vibrer des capteurs dans des vêtements, moyen l'immersion. Pour l'odorat, j'ai pu trouver des installations dans lesquelles vous pouvez insérer des capsules d'odeur, mais qui ajoutent quand même 300$ à la facture de votre casque VR. Pour le goût, sur le site réalité-virtuelle.com, vous voyez que je fais des recherches quand même, j'ai trouvé un article qui décrit comment les électrodes vont pouvoir stimuler ce sens dans le futur. Mais bon, l'article a déjà 5 ans et je vois toujours pas un intérêt aujourd'hui. Enfin, on peut parler de ce qui est pour moi le problème majeur, juste avec la technologie, c'est le déplacement. Pour l'instant, c'est soit de la téléportation, soit le tracking d'une pièce, ce qui est très très peu convaincant. Le deuxième défi que doit relever le métavers immersif qui nous fait rêver est écologique. Et oui, vous voyez ce que j'ai cité avant, ça en fait du matos, hein, et même si je pense que l'humanité est capable, sûrement, de concevoir dans plusieurs années une potentielle super tenue avec tapis de déplacement et tout, bah, comment produire cette technologie massivement ? C'est la question que je me pose. Ben oui, me faites pas croire qu'un projet technologique de cette envergure ne sera pas coûteux en ressources, hein. Lithium, cobalt, or et j'en passe ne sont pas des ressources inépuisables sur notre belle planète. Au risque de passer pour le pessimiste écolo du coin, je pense pas qu'on arrive à créer une super tenue et des super serveurs métaverses accessibles au plus grand nombre avant l'apparition de premiers gros freins technologiques dus à des crises, justement à des crises écologiques et des pénuries. Ouais, c'était mon point pessimiste. Maintenant, mon troisième point. Alors, supposons qu'avant l'apparition des premiers freins au progrès technologique, nous arrivons à créer un super équipement métavers. Vous avez envie de vous plonger dans le métavers de Mark Zuckerberg ? Moi, non. Dans celui d'Apple, peut-être ? Ah, non plus. Celui de Jeff Bezos ? Toujours pas. Et au vu des acteurs qui s'y intéressent, il y aura sûrement un métaverse. Il n'y aura pas de métaverse public et accessible à tous, mais des métavers privés. Et je pense que c'est un problème. Internet, aussi appelé le réseau des réseaux, est un réseau public. C'est public, tout le monde peut y créer des nouvelles connexions, des nouveaux réseaux. L'application d'Internet la plus utilisée, c'est le web, technologie publique. Et comment ne pas imaginer les dérives si la nouvelle grande évolution de notre monde hyper connecté émane de plateformes privées ? Il vous fait rêver le monde dans lequel nous sommes dépendants du métavers gratuit de Facebook ? En même temps, vous n'aurez peut-être pas l'argent d'accéder à celui d'Apple, dans lequel se trouve probablement une classe sociale plus élevée que la vôtre. Évidemment, je noircis le tableau, mais quand on observe notre dépendance en ligne à une dizaine de services numériques, imaginez la nouvelle extension du web super immersive élaborée par des entreprises connues pour maltraiter nos données personnelles, je peux y voir qu'un mauvais épisode de Black Mirror. Qu'est-ce que t'en as pensé, Florian ?
Tu m'as bien flingué l'ambiance. Oui, tu as raison, justement, c'est ce que je disais dans mon actu, il va falloir être responsable, il va falloir qu'on se prenne en main, nous, en tant qu'utilisateurs d'Internet. Automatiquement, ceux qui s'intéressent pour l'instant au métavers, ce seront des gens qui mettront beaucoup d'argent et qui voudront voir un retour sur investissement. Et nous, on n'aura pas les moyens de leur donner. On n'aura pas les moyens, justement, de profiter pleinement de tout ce qu'ils pourront nous proposer.
Oui, et puis c'est surtout que, comme je disais, quand bien même on s'en fout de l'empreinte écologique que peut faire cette nouvelle technologie qui va être très, très, très demandante en ressources, Est-ce qu'il nous fait rêver ce métavers-là, Zachary ?
Bah justement, ce sera le sujet de ma chronique, mais je pense que le problème à résoudre, ouais, ce sera vraiment de ne pas aller vers les métavers privés, dits centralisés, donc ceux des GAFAM et autres, parce que c'est vraiment là où il va y avoir le plus grand risque, oui, notamment de... Bah déjà qu'ils possèdent nos données, là, ils pourront en avoir encore plus sur nous et vraiment beaucoup plus à ce stade.
Claire, qu'est-ce qu'on pense, toi ?
Bah, moi, je rejoins Zachary. Je pense que ça peut être le bordel comme ça peut être sympa à gérer. Donc, bah, moi, j'attends que de voir, quoi.
Zachary, je me retourne vers toi pour la question écologique, parce que comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui se pose beaucoup dans les crypto-monnaies. Et est-ce que, au vu du challenge que ça a l'air d'être, est-ce que tu penses possible un métavers aussi évolué qu'on l'imagine d'ici 10 ans ?
D'ici 10 ans, je pense que c'est encore un peu juste pour vraiment avoir quelque chose d'optimisé et comme tu dis, qu'il soit vraiment accessible à tous à un prix un peu réduit que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Parce que là, oui, le casque général tout seul, il est à $300, mais il y a déjà des options pour augmenter notamment le giga dans les casques pour le stockage qui peut très rapidement atteindre les $500-$600, donc ce qui reste vraiment très très cher. Et non, franchement, je pense que même juste en dehors des ressources, je pense vraiment ce sera vraiment le coût. Le souci pour démocratiser les casques de réalité virtuelle. Ouais.
La plupart des technologies, c'est vrai que au début, c'est quand même une certaine classe sociale qui peut se l'acheter, enfin qui peut les posséder. Mark Zuckerberg, avec son projet de métavers, a pour objectif de rendre ça accessible d'ici 5 ans. Toi, Zachary, je partage ton avis sur le fait que 10 ans c'est short. Alors 5 ans, qu'est-ce qu'on en pense, Florian ?
Ça va être compliqué, je pense, de proposer quelque chose d'aussi ambitieux en 5 ans seulement. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux liés aux réseaux sociaux, justement, on parlait de la sécurité des données. Il vaudrait mieux déjà qu'ils commencent déjà à travailler sérieusement là-dessus avant de se lancer vraiment dans les métaverses.
Moi, le métavers, je l'imagine un peu progressif. C'est-à-dire que je pense que d'abord, ce sera, pourquoi pas, le casque de réalité qui va devenir accessible. Plus tard... ce sera autre chose, ce sera, je sais pas, l'odorat. Et je pense que Mark Zuckerberg, il va plus dans ce sens-là. Qu'est-ce que t'en penses, Claire ?
Un peu comme le futuroscope ?
peut-être que le métavers sera au futuroscope. Florian ?
Oui, je pense qu'effectivement, tu as raison, il va aller petit à petit. On voit déjà qu'il a mis beaucoup d'argent sur le tapis. Il a contacté justement les personnes qui étaient plus à même de l'aider dans ce projet-là. Donc, je pense que là, il est vraiment parti, il va se lancer. Facebook va changer de nom prochainement pour justement se transformer, axer un petit peu plus sa stratégie sur les métaverses. Donc là, je pense que là, il met un peu son armée justement en place et il va se lancer. Et je pense que ça va aller petit à petit à petit.
Mais justement, est-ce que le métavers, comme nous le vend Facebook depuis là en ce moment, c'est tout de suite quoi. C'est vraiment il y a 2 semaines, c'est son sujet du moment, Mark Zuckerberg. Est-ce que finalement, c'est pas presque de la poudre aux yeux pour renommer son groupe qui a déjà beaucoup de casseroles ? Qu'est-ce que t'en penses, Claire ?
Bah si, c'est totalement ça. Et puis là, on en parle énormément, donc. Bizarrement, ça vient juste après l'annonce du changement de nom prochainement. Donc, moi, je pense que c'est juste pour cacher ça, puis pour éviter, comme il le voit maintenant qu'il est plus à la mode. Enfin, c'est plus coté, hein, donc de toute façon, c'est pour ça qu'il se lance là-dedans.
Zachary, on fait le jeu de Facebook ?
En vrai, on pourrait, hein. Mais ouais, je pense notamment aussi que Facebook est vraiment encore sous la menace d'une dissolution. Enfin, du moins, ils veulent scinder le groupe en plusieurs.
En démantèlement, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc je pense vraiment quoi, toute cette foule autour d'eux, tout ce bruit sur les métavers, c'est une bonne stratégie aussi de communication pour un peu oublier les casseroles comme tu disais.
L'heure tourne et il est déjà temps de passer à notre deuxième pause musicale. Florian, je te laisse annoncer ce que tu as choisi de passer.
Oui, après ce petit moment pessimiste, on va s'écouter Deglo avec Close to You, un morceau bien sympa, bien pop.
Rest in they all left when you walked home. It makes sense that they all know it was only for you. If only you knew what good is love without any strings. How did it fall? Stuck in between. Tell me.
Ça marche, Internet.
C'était Dayglo, Close to You, tout droit sorti de la playlist de Florian. On attaque déjà la troisième partie de cette émission et c'est l'heure de la chronique de Claire.
Alors oui, alors merci Alex. Alors moi, pour cette toute première émission, je vais parler un peu ciné. Alors ne vous attendez pas à ce que je vous fasse une chronologie des films sortis depuis la première insertion du métavers au cinéma, mais plutôt une découverte des films qui ont introduit le métaverse à leur sauce. Alors pour rappel, je ne vais pas vous parler de multiverse genre Spider-Man, même si on est tous impatients que le prochain film sorte, mais je vais bien vous parler de métaverse. Bref, plus sérieusement, pas besoin de vous redéfinir donc ce qu'est le métaverse. Florian nous l'a merveilleusement expliqué tout à l'heure. Bon, pour écrire cette chronique, je me suis intéressée aux écrits de François-Gabriel Roussel, spécialiste du virtuel numérique et également conférencier à la Sorbonne Nouvelle. Je me suis basée plus particulièrement sur son article « Culture des métaverses et culture académique » écrit en 2015. Dans son article, il explique que les mondes virtuels sont depuis les années 80 une source d'inspiration pour les œuvres cinématographiques, autant dire que la liste des films est plutôt longue. J'ai donc fait le choix de différencier dans une première partie les films où l'histoire se déroule au travers de mondes numériques, mais qui n'utilisent pas le métaverse contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et enfin, terminer sur les films qui introduisent à merveille la notion du métaverse. Ne vous inquiétez pas, cette chronique a été écrite par une novice du métaverse. Prenons pour exemple le film Inception de Nolan. Souvenez-vous, dans l'histoire, nos personnages agissent et tentent de découvrir la vérité en traversant différents niveaux de rêve. C'est à partir de là que l'on découvre que le film n'introduit pas réellement de métaverse. Effectivement, la plongée des personnages ne se fait donc pas dans des métaverses, mais plutôt dans l'inconscient de ces mêmes personnages. Est-ce que jusque-là, tout va bien ?
Ouais.
Ouais, nickel.
Pour être sûr de ne pas vous perdre, prenons l'exemple d'Avatar de James Cameron, un film qui nous parle, je pense, à toutes et à tous. Eh bien, dans Avatar, c'est un peu pareil. Les hommes utilisent des avatars télécommandés pour évoluer, mais encore une fois, on ne parle pas de métaverse numérique, vu que nos personnages ne changent pas de réalité, mais uniquement de corps, celui d'un avis. Les films que je viens de vous citer s'inspirent des mondes virtuels, mais ne sont pas pour autant des films où la réalité virtuelle prend le dessus. Bon, je pense que cette fois, on peut parler des films qui se rapprochent de notre sujet. Parlons maintenant métaverse numérique. Pour recontextualiser, dans le métaverse, on y trouve des modes numériques dans lesquels l'homme pénètre dématérialisé, échappant totalement au monde réel et aux contraintes de la condition humaine. Tout y est possible, comme l'apparition d'êtres biologiques dans un univers virtuel. On pourra se référer au film Tron l'héritage, ou en pensant par un univers dominé par la matrice et où les humains ne sont plus que des objets pour alimenter les machines. Pour celles et ceux qui ont vu le film, souvenez-vous du dernier combat entre l'homme et la machine qui se mène au cœur des logiciels, et dans lequel les hommes sont dans une toute autre réalité. Vous l'aurez compris, je faisais bel et bien référence à Matrix. Dans d'autres films, le métaverse prend une autre forme en se jonchant des différents niveaux de réalité, comme dans Existence Z ou Passé virtuel. Les personnages se retrouvent perdus et ne savent plus dans quelle réalité ils se situent. On pourra notamment reprendre l'exemple de Ready Player One ou encore Free Guy, sorti en août dernier. En fin de compte, le métaverse est partout. Bon, pour celles et ceux qui ont compris, c'est parce que vous avez vu les films que vous avez compris, pardon. Et pour les autres, bah, dépêchez-vous de les regarder. On vous rappelle, mais un nouveau Matrix sort bientôt et la saison des plaids est lancée. Donc, pas d'excuses pour ne pas les regarder. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et pour être sûr que je ne vous ai pas perdu, je vous propose de terminer sur un quiz qui vous donnera peut-être envie de refaire la trilogie Matrix ou essayer à nouveau de retrouver toutes les références de Ready Player One.
Très bien, on attend ton quiz, Claire.
Ça va être rapide.
Petit quiz.
Vous battez pas. Alors, combien y a-t-il de références dans le film Ready Player One ?
157.
157 ?
C'est pas très précis.
Je crois que je ne suis pas très très loin.
Alex.
158.
Ok.
159, hein, on va suivre.
Oh les gars, vous êtes loin. Hein. Alors, il y a bien une centaine, mais. Y
100,
en a une...
180.
101.
101.
Eh, je suis plus près. Ah, j'y peux rien, 101,
bon. 101, bravo.
Laquelle préférez-vous question comme ça, personnellement. Moi, par exemple, c'est la référence du géant de fer. Voilà, j'adore ce film.
Ah, bah ouais. Bon, moi, je suis pas du tout original, mais Retour à le futur, hein. La DeLorean, quel plaisir.
Shining, la scène de l'ascenseur qui a été parfaitement reconstituée par Spielberg, franchement c'est un très très bel hommage.
Non, moi je pense juste le Pac-Man qui se balade, hein, tout simplement, ou toutes les autres toutes les autres qui se baladent là, franchement ils sont super cool, hein. Le T-Rex.
Ok, pas mal. Et allez, question, j'imagine que vous avez tous vu Matrix.
Bien sûr.
Oui. Oui.
Alors, le téléphone portable qu'utilisent Neo, Trinity et Morpheus, se trouve-t-il encore dans le commerce?
C'est un Nokia, non?
Franchement, ah ouais. Franchement, moi je dirais oui, parce que tu peux avoir fait une question fourbe. Donc je dirais oui.
Dans les commerces, non, je pense pas. Dans les musées, oui.
Ouais, clairement, oui, je pense. Hein. Si c'est un Nokia, c'est sûr.
Ok, il y a juste Florian qui est partagé. Eh bien, il s'agit. Enfin, c'est correct, il est bien encore dans le commerce. Il a été recommercialisé. Oh, et c'est un Nokia 8110.
Ah,
voilà,
oui,
pour information.
Vrai. Je crois que j'avais vu passer la news en plus.
Et dernière question, est-ce que pour ceux qui ont vu le film Free Guy, savez-vous dans quel jeu le personnage de Jude, mais son double beaucoup plus musclé et moins intelligent? Vous savez dans quel jeu il apparaît?
Alors j'ai pas vu Free Guy, mais je tente très bien Fortnite. Hein.
Claire, je crois que tu as autour de la table des gens qui n'ont pas vu Free Guy.
Je suis vraiment déçu.
Ah bah désolé pour Ryan Reynolds.
Tu disais
Fortnite, non?
Ouais.
Ah,
c'est
franchement, tellement
facile.
Très actuel.
Un gros bourrin un peu débile, ouais, Fortnite.
Bon, ben voilà, c'était la dernière question, vous avez été super.
Alors, vos métavers au cinéma préférés? Florian, toi, amateur de films.
Bah, Ready Player One, pour moi, c'est le plus proche, c'est le plus logique.
C'est celui qui nous fait rêver.
Voilà, c'est celui-là qui nous fait rêver. Hein. Dès qu'on voit le film, on se dit, ah, mais oui, je veux, et je m'en fiche que le monde s'écroule autour, je veux ce monde.
Et son créateur, c'est pas Mark Zuckerberg. Hein.
Non.
Non, ouais, pareil, Ready Player One. Mais ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'il donne envie à énormément de gens, alors qu'en fait, c'est une énorme dystopie. Voilà, tout, comme tu disais, Florent, tout s'effondre autour de nous. Seul le jeu persiste, mais en fait, c'est vraiment ce qui attire le plus, quoi.
Free Guy, peut-être? Claire?
Non, pas du tout.
Non, non.
Bah, écoutez, moi, j'ai vu Free Guy, et alors, on a beau dire que c'est une copie conforme de Ready Player One. Bah, c'est pas mal quand même, parce qu'il y a beaucoup moins de références et bah, moi, tout simplement, j'ai bien aimé. Voilà.
Ah, très bien. Toujours au cinéma, donc je tente très bien.
Très bien, très bien. Eh bien, on va passer à la suite avec la chronique de Zachary.
Eh bien, écoutez, une question qui va arriver à travers les métaverses, c'est celle de la propriété. Qu'allons-nous vraiment posséder dans ces mondes numériques? Avant d'essayer de répondre à cette question, nous allons parcourir deux métavers existants. Pour commencer, l'un des plus connus et le pionnier du milieu, c'est Second Life. Créé par la société Linden Lab, ce monde virtuel voit en ligne, ce monde virtuel en ligne voit le jour en 2003 et est toujours accessible aujourd'hui sur Windows, Mac et Linux. Dans Second Life, vous créez votre avatar, vous choisissez son visage, ses vêtements, ses accessoires, mais vous pouvez aussi créer des structures, que ce soit votre propre maison ou des villes entières, en coopération avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi monter un commerce et gagner des Linden Dollars, la monnaie locale qui peut être échangée contre de vrais dollars et qui continue de tisser un lien entre ce monde numérique et notre monde physique. À sa sortie, c'est une révolution, à tel point qu'en plus des personnes qui viennent simplement visiter ce monde, des entreprises s'installent aussi dans Second Life. Adidas, Amazon, BMW, Dell, Dior, Microsoft et des dizaines d'autres ouvrent des boutiques et voient dans ce métavers un outil marketing majeur à l'ère où Facebook n'existe pas encore. Second Life voit son pic d'activité en 2007, avant de progressivement se vider. En effet, la nouveauté est arrivée et elle est plus accessible à toutes et à tous, il s'agit des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le monde de Second Life vivote toujours, mais est complètement dépassé technologiquement. Autre métaverse existant, Decentraland. Il s'agit aussi d'un monde numérique sorti en 2018, cette fois-ci accessible soit grâce à votre navigateur web favori ou par la réalité virtuelle grâce à un casque. Une différence avec Second Life est perceptible dès l'inscription, puisqu'on vous demande si vous voulez utiliser un portefeuille de crypto-monnaies ou bien entrer dans ce monde en tant qu'invité et d'enregistrer vos informations dans un serveur local. Ça peut paraître anodin, mais il s'agit dès l'inscription de la différence fondamentale. Dans Second Life, votre avatar et ses vêtements, vos constructions, vos Linden Dollars et tout ce que vous pouvez posséder ne vous appartiennent pas vraiment. Toutes les données sont stockées dans les serveurs de l'entreprise Linden Lab de façon centralisée. Une panne dans ces serveurs, comme on a pu voir chez Facebook le 4 octobre 2021, et tout est inaccessible, perdu, le temps que la panne soit résolue. Decentraland, comme son nom l'indique, est stocké de façon décentralisée sur le protocole blockchain Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie à ce jour derrière le Bitcoin. Ethereum est maintenu par ce qu'on appelle des nœuds, qui sont gérés bénévolement par sa communauté. On estime aujourd'hui ce nombre de nœuds à plus de 3000 à travers toute la planète. C'est facile d'attaquer un serveur d'une société à la Silicon Valley, alors que 3000 à travers le monde, ça devient plus technique. Autre avantage de l'utilisation d'un portefeuille crypto-monnaie, c'est la flexibilité. En effet, vous allez pouvoir réellement posséder votre avatar et ses objets et les déplacer en dehors de Decentraland pour les vendre sur les marketplaces ou les exposer dans d'autres métavers connectés à la blockchain Ethereum. Vous devenez propriétaire de vos objets numériques. Revenons à ce que vous pouvez faire dans Decentraland. Comme dans Second Life, vous pouvez interagir avec des personnes, jouer à des jeux ou participer aux activités de la communauté. Comme tout récemment, du 21 au 24 octobre, s'est déroulé un festival de musique nommé le Metaverse Festival, avec notamment le DJ Deadmau5. Mais vous pouvez aussi investir dans la pierre numérique et acheter une parcelle de terrain avec le mana, la monnaie locale de Decentraland, qui peut être aussi échangée contre d'autres crypto-monnaies. Et qui sait, peut-être que cette parcelle de terrain prendra de la valeur comme l'immobilier de notre monde. Bref, les possibilités de ces métaverses connectés au blockchain sont infinies. Aujourd'hui, nous parlons généralement d'identité numérique, notre double visible sur les réseaux sociaux. Mais prochainement, l'enjeu majeur des métavers sera la propriété numérique. Quelle entreprise pourra se vanter de posséder pour nous nos objets de ces mondes parallèles aux nôtres ? Peut-être Facebook, via son prochain métaverse, où toutes nos possessions seront donc centralisées ? Ou peut-être allons-nous choisir de posséder nous-mêmes nos objets via un protocole blockchain tel qu'Ethereum de façon décentralisée ? Faites vos propres recherches, vous êtes maître de votre avenir numérique.
Merci beaucoup Zachary pour ta chronique. Écoute, j'ai envie de te poser une question que je pense me poseraient mes parents. Ça sert à quoi d'avoir des objets virtuels ?
Eh bien, c'est une très bonne question. En fait, je pense que c'est la suite logique des jeux vidéo. Quand on joue notamment à un jeu de rôle en ligne, on va citer World of Warcraft pour le plus connu, vous possédez voilà, des armes, des vêtements, de l'or, des familiers... plein de conneries finalement, et toutes ces choses sont stockées dans les serveurs centralisés et ne vous appartiennent pas vraiment, mais il y a quand même un affect à votre personnage. Vous aimez jouer avec, vous l'aimez bien l'habiller, vous aimez chevaucher les plus belles montures, c'est un peu ce côté là et en fait c'est quelque chose qui est en train de dériver progressivement, même pour le grand public, et notamment dans Second Life on a vu des gens pas du tout intéressés par les jeux vidéo, mais qui sont quand même allés et qui ont aimé s'habiller en Dior, parce que Dior avait une boutique sur place, la vraie boutique Dior, Adidas, etc. En fait, ça a été vraiment un gros boom pour le marché de la mode, parce qu'ils pouvaient habiller les personnages numériques. Et je pense vraiment que voilà, c'est quelque chose qui va arriver progressivement, et bientôt à Noël, les enfants, ils ont peut-être plus des jouets, des action man, mais ils ont peut-être un jeton numérique qui aura vraiment une valeur et que, possiblement qui pourra être utilisé pour jouer sur un jeu crypto-monnaie.
Qu'est-ce que t'en penses toi, Florian ?
Ça fait extrêmement peur justement de voir ça, mais c'est vrai qu'il y a
un... La caution boomer de l'émission.
c'est ça, mais on voit en vrai que les métaverses, ils vont ouvrir justement tout plein de marchés. Tout ce qui se passe dans la réalité, il y aura la mode justement des métaverses, il y aura les sports des métaverses, le travail des métaverses, il y aura tout cela et il va falloir faire avec. Moi, je comprends totalement les gens qui ont envie justement de personnaliser leurs avatars. C'est ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui avec nos technologies. On a envie de personnaliser les outils qu'on a et... Je suis sûr que quand on sera dans les métaverses, ce sera la même chose. On aura également envie de personnaliser son habitat, de personnaliser son personnage. Et on sera prêt à mettre le prix.
Tu as cité Second Life, qui était un jeu vidéo. Et finalement, oui, c'est vrai que c'est
Il existe encore.
C'est vrai qu'il existe encore. J'ai un jeu vidéo qui me vient en tête, finalement, qui est peut-être ce qui se rapproche le plus de notre Ready Player One. C'est VRChat, non ?
Alors, VRChat est aussi...
Peut-être explique ce que c'est.
Alors, VRChat, c'est du coup accessible sur Steam, il me semble. Et donc, c'est un jeu en réalité virtuelle. Donc, il faut utiliser un casque. Et en fait, dans VRChat, vous pouvez apparaître en utilisant n'importe quel un peu personnage du monde de la BD, des comics ou de l'Internet en général. Voilà, ça peut être Sonic comme Shrek. Enfin, ça peut être n'importe quel personnage. Et vous allez, en fait, déambuler dans diverses salles. Et notamment, il y a... le micro qui est activé sur votre casque et du coup vous pouvez discuter avec d'autres personnes. Et oui, c'est sans doute ce qui se rapproche le plus, peut-être le multivers qui est en ce moment le plus actif et qui attire de plus en plus de monde. Et pour le moment, oui, c'est juste finalement, comme ce nom l'indique, VRChat, c'est juste pour discuter avec d'autres personnes. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'autres activités, mais oui, c'est vrai que celui-là est quand même pas mal, ouais.
Eh bien, chers auditeurs, chers chroniqueurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Avant de se laisser, cette première inaugure aussi la création de l'agenda d'Azerty, dans lequel vous retrouverez les événements numériques de Rennes et alentour. Ce jeudi 28 octobre, l'association ADN West organise une conférence sur inscription intitulée « Infrastructure et résilience entre mythes et réalité ». Comment protéger un système d'information de manière efficace ? Pour le savoir, rendez-vous jeudi à 18h30 à la maison de l'association. Si jeudi, vous n'avez pas la tête à vous protéger, peut-être préfériez-vous créer. Eh bien, ça tombe bien parce que jusqu'à janvier, le pôle numérique de Beaulieu vous propose une formation technique à la 3D. C'est tous les jeudis et pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de l'Université de Rennes. Enfin, pour initier les plus petits à la robotique pendant les vacances scolaires, la CASA de Saint-Elbron propose 2 semaines d'activités et d'événements en lien avec la robotique et le numérique. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site d'Arma Productions. C'est ainsi que s'achève cette émission. C'était la première d'Azerty, votre rendez-vous numérique bimensuel sur Radio Scilab. Cette émission et les suivantes seront disponibles sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux @AzertyScilab. Bref, j'en ai trop dit, on se quitte avec une musique choisie par Claire. Tout de suite, The Moment, Time Impala. Salut !